trois petites parties. Une première partie, j'ai fait un petit photo montage pour mettre une famille, c'est compliqué, la nôtre, c'est compliqué, c'est comme dans Guerre et Paix pour se retrouver entre tous les personnages. Donc, il y aura quelques photos et après, vous les associerez pendant la biographie aux images que vous venez de voir. Et en troisième partie, je lirai quelques textes de Jean Donat, des textes assez intimes, des réflexions personnelles qui caractériseront, j'espère, bien mon arrière-grand-père. Voilà. Donc voici donc mon arrière-grand-père Jean Donat. Donc pas grand-chose à rajouter. Peut-être à la rigueur, une petite auréole derrière la tête avec Photoshop. Pourquoi pas ? Voilà. Pour les hommes que ça intéresse, je vous présente aussi sa femme Sidonie. Bon, pas mal. Et voici maintenant un homme très, très important. Prosper Palache. Entrepreneur à Saint-Antonin, le père de Sidonie, on est en 1907, il a 60 ans. Immense respect. Quasiment tout ce que ma famille possède actuellement à Saint-Antonin, on lui doit. D'ailleurs, voilà une facture de l'entreprise de Prosper. Jean Donat, comme vous pouvez le voir, s'en est abondamment servi comme brouillon pour ses publications. Ensuite, voici une lithographie très rare, produite par ma mère à l'âge de 6 ans, représentant son grand-père Donat. Non, c'est pas une lithographie, c'est un défunt, c'est une pièce unique. Un chef-d'œuvre de concision graphique. Regardez le dessin caractéristique du ventre, en forme de pomme de terre. L'homme ancré dans la glèbe, sous la glèbe même. On verra plus tard combien cette vision s'avérera juste. Chapeau Ginette. Et elle récidive 5 minutes plus tard en croquant sa grand-mère, Sidonie, avec ce même œil perçant qui caractérise son travail artistique. Observez encore le dessin du ventre en forme de planche harpacée cette fois. En ce temps-là, c'était comme ça. Bien vu, Ginette. Jean Donat, ensuite, en habit de professeur. Et c'est sûr que quand il allait acheter sa baguette chez Tabarly, on le remarquait. Alors, voici... on ne voit pas grand-chose, hein, mais voici une photo de classe qui sent bon la fin du 19e siècle. Jean Donat au centre et 30 élèves qui font la gueule autour. Il y en a un qui esquisse un pâle sourire parmi eux. Il a dû se tromper de siècle. Celui qui m'a toujours fait marrer, c'est le petit assis tout en bas à droite. Vous le voyez en bas, petit à droite, il est assis, il a une monstrueuse envie de faire pipi, mais il tient le coup, le bougre, il serre les dents comme un fou, il a bloqué toutes les issues, et c'est long une photo à cette époque. Rien que pour cela, Jean Donat lui accordera le tableau d'honneur. Et la même chose, mais l'année scolaire 1913-1914, au petit lycée de Toulouse. Jean est très satisfait de ses 35 élèves et les élèves lui rendent bien. Admirez l'atmosphère détendue et apaisée qui règne dans cette classe et l'harmonie qui s'en dégage. Quel changement. Magnifique portrait. Alors ça, et voici la famille Donat au balcon de leur maison sur la promenade. À gauche, la fille Marie-Louise, les deux parents, et au milieu d'eux, la grand-mère, Marie Ferrier, épouse Palache. Magnifique portrait intergénérationnel de la famille Donat, avec fille et gendre. Jusque-là, tout va bien entre eux. À noter l'attitude parfaitement soumise du clébard de mon grand-père, qui a dû prendre dans les minutes qui précèdent une sacrée branlée pour avoir cette tête-là. Et voici ma grand-mère, Marie-Louise Donat, la fille unique de Jean, le jour de son mariage en 1910. Un chef-d'œuvre, sa photo. Donc je vais vous raconter l'histoire. Pour que les roses sur le chapeau gardent toute leur fraîcheur au moment de la cérémonie, Jean a versé un brodo sur la tête de sa fille. La robe a coûté une fortune. J'ai la facture à la maison. Et son père lui donne donc un petit verre vide pour recueillir avec sa main gauche l'eau qui coule derrière son dos. Seul moyen d'éviter les auréoles. En cas de dégâts des eaux plus importants, elle tient de la main droite une serpillière, prête à officier. Elle pose son bras sur le grand guéridon comme si c'était un comptoir de bistrot, pour justifier l'arrivée éventuelle d'un nouveau verre vide en cas de besoin. Et top du top, elle sourit au photographe. Si jamais, dans votre vie, vous rencontrez une fille qui sait faire tout ça en même temps, mariez-vous dans l'heure. Et voici l'heureux élu Gustave Houllier, mon grand-père, un brave pioupiou qui ne sait pas encore ce qu'il attend. Alors ça, j'adore cette photo. C'est ma mère, la petite Ginette, le 14 mars 1915, à l'âge de 7 mois. On dirait le Crown Prince qui passe en revue les troupes prussiennes dans sa calèche à la veille de la guerre. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça. Elle passe, en réalité, en revue les troupes françaises dans les rues de Toulouse. Rassurez-vous, dès qu'elle a fini de compter les boutons de guêtre, elle est adorable. Et sa mère aussi. Je ne veux pas oublier ma chère tante Jacqueline, la sœur de ma mère, que vous apercevez ici au garde à vous, magnifiquement dressée par ma mère, et qui est la seule personne maintenant, je crois, à avoir connu Jean Donat. Elle me corrigera plus tard si je faillis à ma tâche. Elle n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Voici, pour finir, les Donats à la retraite, dans le jardin du Père Palache, que j'occupe actuellement près du pont des Estafés. Mon arrière-grand-père a trimé, sans compter son temps, là-bas, pour faire pousser d'une manière rigoureuse et quasi scientifique, voyez les plans du jardin, pour faire pousser ses légumes. C'est là aussi, à l'ombre, l'été, qu'il a écrit la plupart de son œuvre. J'ai pris désormais fièrement la relève en arrosant avec componction tous les matins 14 pieds de tomates en son honneur. Je suis maintenant le propriétaire de ce jardin. Et cela veut donc dire, tenez-vous bien, que si jamais les Donats avaient l'intention un jour d'y revenir et de s'y réinstaller, je pourrais les vider. J'oubliais la dernière photo. Si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin de ma biographie, vous saurez enfin pourquoi la rue Jean Donnet a été rebaptisée rue Trump. J'ai souvent remarqué qu'à Saint-Antonin, personne ne sait où il va, mais tout le monde veut savoir d'où et de qui l'on vient. Quand j'étais petit, j'adorais traîner l'été à vélo dans les ruelles de la ville, flanquées des quelques copains que je m'étais fait sur place. Au hasard des rencontres avec leurs parents, famille et amis, la même interrogation revenait éternellement. « Mais t'es qui, toi ?» Sans me démonter, sûr de mon effet, je dévoilais à cette occasion ma botte secrète et infaillible. Je suis l'arrière-petit-fils de Jean Donat. Instantanément, une auréole de considération respectueuse dégringolait sur ma tête et toutes les portes s'ouvraient comme par miracle. Lorsque maintenant, à la même question, je fais la même réponse, je ne perçois chez mes interlocuteurs que des regards vitreux et vaguement interrogatifs qui me font comprendre sur le champ le manque d'intérêt que provoque désormais sur autrui la mise en avant de mon patrimoine génétique. J'ai maintenant la certitude bien comprise que, pour assurer ma notoriété, je dois désormais plus compter que sur moi-même. Et franchement, ça ne m'arrange pas. C'est donc pour tenter de retrouver ces temps bénis que je suis devant vous ce soir. Au départ, je ne sais pas vraiment à partir de quand, mais déjà avant la Révolution, il y avait à Saint-Antonin la famille Palache, dont le dernier héritier connu portant le nom est Prosper Palache, le bien nommé. Mon arrière-arrière-grand-père, né dans les années 1840, il fit une fort honorable carrière d'entrepreneur de maçonnerie à Saint-Antonin durant la seconde moitié du XIXe siècle. Catholique, il participa à la construction de l'église de Saint-Antonin dans un style gothique campagnard du plus bel effet. Il construit d'innombrables maisons dans les environs, dont la sienne sur la promenade, et aussi l'école de Sainte-Sabine, occupée maintenant par les Isnards, qui peuvent attester sur l'honneur que c'est du solide. Lourdement handicapé par la grave pénurie de bonnes et jolies catholiques qui sévissaient à cette époque à Saint-Antonin, Prosper Palache ira jusqu'à Saint-Pierre-de-Livron pour trouver la compagne de sa vie, Marie Ferrier. Il put ensuite partager avec elle, chaque dimanche, l'eau bénite qui stagnait à portée de main sous le porche de la nouvelle église. Les ancêtres de Marie Ferrier étaient meuniers dans la vallée de la Bonnette du côté de Caylus. Et ce sont eux qui, pendant la Révolution française, fierté de la famille, cachèrent la Vierge du sanctuaire de Notre-Dame de Livron dans l'un des grands sacs pleins de farine du moulin. Aussi, n'ai-je jamais compris pour quelle raison, pendant ma préadolescence, je me faisais tant engueuler par ma mère lorsque, lors du pèlerinage rituel mais forcé du 15 août à Livron, croyant poursuivre l'œuvre bienfaitrice de mes aïeux, je roulais moi-même à mon tour à Tignemieux la Sainte Vierge dans la farine. Deux poids, deux mesures. Sur l'entête des factures de l'entreprise de construction Palache, que vous avez vu tout à l'heure, on pouvait lire « Constructions en tout genre, maisons particulières, villas, châteaux, monuments funéraires, caveaux, chapelle. » Alors vous pensez bien que quand je vois maintenant mon copain Simon Vigne faire le malin quand il perce une fenêtre dans un mur de briques aveugles, je lui rabats immédiatement le caquet en lui présentant l'une des factures de mon illustre ancêtre et la messe en sa défaveur est ainsi vite dite. Le fruit chéri et unique de l'union de mes arrière-arrière-grands-parents naquit en 1871, Sidonie Palache, qui deviendra en 1888 Sidonie Donat. Nous y voilà donc. Pourquoi aller dénicher à La Razée, en Lomagne, à l'autre bout du département, pas très loin de Castelsarrasin, ce jeune instituteur sorti frais et moulu de l'école normale de Montauban? Nul ne le sait précisément, mais elle l'a fait. Jean Donat est né en 1866 dans la maison de ses grands-parents maternels, sise dans le beau village de La Razée. Son père, dont il est le fils unique, comme dans la plupart des familles campagnardes de cette époque, était employé comme modeste maître-valet dans une ferme non loin de là, où il habitait avec sa femme Marguerite, un bâtiment des plus modestes, accolé à l'étable et composé d'une seule grande pièce en fumée qui servait de cuisine et de chambre et d'un chai en terre battue, attenant. Travaillant depuis l'âge de 13 ans, il ne savait ni lire, ni écrire, et en avait tant souffert qu'il mit tout en œuvre pour aider le petit Jean à faire ses études. C'est dans cette ferme que Jean passa sa jeunesse. Intelligent et travailleur, il entre en 1882 au collège de Castelsarrasin, à l'âge de 16 ans, au culot. Jean envoie un article commentant la visite dans la région du général Fraissinet au journal Le Républicain du Tarn-et-Garonne, qui, à sa grande surprise, le publie. C'est la première pierre d'une longue série de publications diverses dans de nombreuses revues de sociétés savantes et qui ne s'acheva qu'à sa mort. Il entre ensuite à l'école normale de Montauban et en sort instituteur dûment diplômé. Il se marie donc à 22 ans avec une petite Saint-Antoninoise bien née de 17 ans, Sidonie Palache, avec son consentement, semble-t-il. Il intègre dès lors son premier poste à Montauban. En 1989, née à Saint-Antonin, Marie-Louise, ma grand-mère, leur fille unique. Il passe ensuite l'examen qui lui permet d'obtenir le titre envié, jusqu'à la naissance de Philippe Pagès, de professeur de septième, qui l'autorise à n'enseigner que dans cette classe recherchée. Il est nommé à Périgueux en 1899 et ensuite, dès la rentrée 1901, à Albi, où ils furent très heureux. Puis, à Toulouse dans les années 10, au petit lycée devenu maintenant le lycée Pierre de Fermat, où il termina en 1929 sa carrière comme professeur d'histoire. Sa fille Marie-Louise se marie en 1910 avec un sémillant et caustique professeur de philosophie aveyronnais, rencontré sans doute à Villefranche-de-Rouergue, très indépendant, Gustave Houllier, mon grand-père. Un gros poisson, ce Gustave, rentré premier et sorti premier à l'École normale supérieure de Paris, reçu numéro 1 au concours de l'agrégation de philosophie en 1904. Un parcours parfait qui flatte les attentes de Jean Donat pour sa fille. Sa femme, l'ayant attiré à saint Antonin, les donna, passaient ici la plus grande partie de leurs vacances scolaires, mais la rasée n'était jamais oubliée. Jean Donat est un homme forgé par les idées du XIXe siècle, un républicain convaincu, attaché viscéralement à sa région, à son pays, aux acquis de la Révolution française, cultivant sans cesse la mémoire de ses ancêtres paysans. Grand travailleur, il se lance donc naturellement, pendant ses temps libres, dans l'exploitation des archives locales de Saint-Antonin, de la Rasée et dans une moindre mesure de Toulouse. Il n'oublie pas non plus de cultiver durant l'été à Saint-Antonin le grand jardin des palaches que j'occupe actuellement, ce que vous savez déjà. Il le fait avec un souci du détail aussi maniaque et passionné que celui qu'il met à la disposition de ses recherches historiques. Il est à Toulouse lorsque débute la Grande Guerre et Gustave, son gendre, est envoyé sur le front à Verdun au début de l'année 1915, laissant sa femme Marie-Louise et la petite Ginette, ma mère, née le 31 août 1914, à la charge de ses grands-parents. Une absence de plus de 4 ans. Gustave est fait prisonnier au Bois des Corbeaux le 6 mai 1916. Il restera jusqu'à la fin de la guerre prisonnier dans les camps allemands. Il sera interné au début pendant 3 mois, totalement isolé, dans un des cachots les plus insalubres de la prison de Spandau à Berlin, en signe de représailles. Gustave ne verra sa fille qu'une seule fois en 4 ans, pendant une permission de 7 jours, en décembre 1915. Pendant toute la guerre, Jean Donat écrira sur 11 cahiers d'écoliers, au jour le jour, un journal de guerre passionnant et souvent émouvant, où s'entremêlent sa vision des combats, ses commentaires sur les choix des chefs de guerre et des politiques, sur les courriers qu'envoyait presque chaque jour Gustave à sa femme, sur la vie quotidienne à Toulouse, Saint-Antonin et la Rasée, et des remarques bien plus personnelles sur ses états d'âme, ses amis, sa famille, sa vie quotidienne. En 1918, il s'associe avec un professeur de droit international de l'Université de Toulouse, Jean Signorel, pour dénoncer dans un livre toutes les entorses commises par les Allemands pendant la guerre aux droits et aux traités internationaux. Ce livre, Les crimes inexpiables, civilisation et barbarie, obtiendra un prix de l'Académie française. Après la guerre, son gendre Gustave, nommé à Bordeaux, mais usé par les dures années qu'il venait de vivre et par les difficultés de la vie quotidienne au sortir du conflit, difficultés pour se loger, coûts exorbitants de la vie, décide, avec sa femme, à l'incitation de son frère déjà à Saigon, de tenter l'expérience indochinoise avec l'espoir de vivre là-bas une vie familiale plus large. Il est nommé au lycée de Hanoï et embarque au début de l'année 1921 avec sa femme, sa fille Ginette, qui a maintenant 6 ans, et le petit Pierre Houllier, né il y a 6 mois, sur le bateau qui les conduit au Tonkin. C'est le grand drame de la vie de Jean Donat et de sa femme. Condamnés à ne voir leur fille et les enfants que tous les 3 ans, ils ne pardonneront jamais à leur gendre et à leur fille cet éloignement vécu comme un abandon. Ils passeront les 25 ans qu'il leur reste à vivre dans l'acrimonie la plus totale, tentant inlassablement et maladroitement de culpabiliser le jeune couple qui menait là-bas la vie la plus heureuse et la plus riche qui soit, sur l'air indémodable de Matonkiki, Matonkiki, Matonkinoise. La douleur s'accentua dès 1926 au décès à 37 ans de Marie-Louise, leur fille, 1 an après la naissance de la petite Jacqueline, dont la présence m'impante, elle aurait dû être là aujourd'hui. Et elle pourrait vous raconter des choses. Elle. Ouais, elle a 95 ans. Bon. Pour le plus grand profit des diverses revues en charge de distiller au public averti ou profane les travaux des historiens, Jean Donnat tenta d'oublier son infortune familiale qui ruinait le désir de transmission patiemment mis au point par ses ancêtres et par lui-même et se réfugia tête baissée dans son travail historique. Il finalise en 1922 sa monographie lazarétoise, une communauté rurale à la fin de l'Ancien Régime, sur l'état de la propriété terrienne à l'époque de la Révolution, dont parlera plus tard Alain d'Aziron. Il redoubla d'ardeur à partir de sa retraite en 1929. À l'instigation du chanoine Galland, le curé, qui lui force un peu la main, il accepte d'écrire en 1933 l'histoire de Saint-Antonin, sous la forme d'un feuilleton dans le journal paroissial Les Échos de Nobleval, bien que son goût personnel le porte naturellement vers des recherches moins générales. Il travaille enfin pendant 25 ans à la création de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, qu'il arrive enfin à finaliser en 1943 et qui fait l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Durant toute sa vie, il aura noirci de ses écrits à la plume, dans un souci exacerbé d'économie domestique dicté par ses origines paysannes, des cahiers d'écoliers, des factures vierges de l'entreprise de son beau-père, des dos de bulletins de vote au nom de Marcel Ulrich et des dizaines de kilos d'innombrables petits bouts de papier de récupération. Il aura écrit des milliers de lettres et de notes de toute nature. En les consultant, c'est tout un pan de notre passé lointain qui nous saute au visage et qui nous interroge violemment sur ce que nous sommes et sur la façon dont nous avons été faits. Il décède l'année suivante, en 1943, à l'âge de 77 ans, épuisé, sans avoir pu physiquement transmettre à ses petits-enfants le témoin qu'il avait lui-même reçu et bonifié de ses aïeux. Sur le coin d'une table de sa maison, un gros paquet bien ficelé et ce mot manuscrit, ce paquet de livres et de brochures renfermant la plus grande partie de mon œuvre est réservé à ma chère petite-fille Ginette Ouliédona, qu'il ne m'a pas été permis de choyer, qu'il ne m'a été permis de choyer que dans les premières années de sa vie. Que ses travaux lui rappellent tout au moins le souvenir d'un grand-père qu'elle aura peu connu, mais qui fut un courageux travailleur, se dirigeant seul et parvenant à s'élever un peu par son propre mais rude effort. Il s'appliqua toujours à se montrer homme de conscience et de devoir. Lors de la dernière visite officielle de Donald Trump à Saint-Antonin, pressé par un calendrier chargé, ce dernier a demandé à Gérard Hagan, notre maire, de lui indiquer le circuit de visite le plus court qu'il puisse faire dans notre bonne ville. Gérard lui a indiqué sans hésiter la rue Jean Donnat, 23 mètres, 20 secondes de visite. Donald a été si subjugué par l'atmosphère qui se dégageait des lieux que lorsque Gérard lui a proposé de signer ensuite le livre d'or à la mairie, il a exigé qu'on lui livre sur le champ un escabeau, car, selon lui, le seul endroit de Saint-Antonin qui mérita sa signature était la plaque de rue au nom de Jean Donnat qui se trouve sur le mur de la pharmacie. Cette plaque vaut maintenant une petite fortune. Au nom de tous les descendants de Jean Donnat, je tiens à prévenir solennellement la mairie que nous nous opposerons formellement à toute tentative de vendre cette plaque, et cela même si la survie financière de la commune en dépendait. Donc, un discours de remise des prix au petit lycée de Toulouse, le 12 juillet 1914. C'est la conclusion du discours, d'un discours où il prône une éducation à la montagne, un esprit sain dans un corps sain. Il s'adresse aux élèves. Soumise à cette, mes chers enfants, de bons et vaillants Français, capables de comprendre tous les devoirs, les plus simples et les plus vulgaires, comme les plus nobles et les plus élevés. Vous ne devez jamais oublier que vous avez l'honneur et le bonheur d'appartenir à une patrie privilégiée, certes, par sa situation, mais grande surtout par son histoire et le rayonnement de sa pensée. Il passerait comme un voile de ténèbres sur l'humanité si elle disparaissait, ou même si elle était diminuée. Nous avons le devoir de lui conserver, dans la lutte qu'elle soutient contre de puissants rivaux, la supériorité que nos ancêtres lui ont assurée par leurs efforts et leurs sacrifices. Ce lourd et précieux héritage dont nous sommes actuellement les dépositaires, vous devez toujours être en mesure de le défendre. Si, par malheur, notre France se trouvait un jour menacée, il faut que tous ses enfants puissent utilement accourir à son appel désespéré et voler dans un même élan d'enthousiasme vers le point où le vieux drapeau de la Révolution agitera ses plis victorieux. Les Allemands n'ont qu'à bien se tenir. Là, c'est extrait de son journal de guerre. C'est lundi 27 novembre 1916. Je crains d'écrire des paroles impies, mais il souffre comme un vent de pessimisme et on sent comme une vague de défaite. Est-ce le découragement qui m'envahit? Mais on ne voit plus l'espoir d'aucune issue favorable. D'où pourrait venir le succès quand on fait si peu pour recruter le matériel humain? Il parle ici des fils à papa, les embusqués, comme on les appelle, qui par régime de faveur ne vont pas sur le front. Quand le gaspillage sévit, que l'organisation manque et que de nulle part ne surgit la tête qui mettrait de l'harmonie dans le fonctionnement du mécanisme national. Après 3 ans de guerre, nous en sommes là de redouter la popularité d'un général victorieux. Il parle du général de Castelnau à Verdun, mis au placard par ses supérieurs car il leur portait ombrage. Et moi, vieux et éternel républicain, mais qui avait conçu la République sous un autre aspect que l'intrigue et la faveur, je suis obligé de convenir que ceci marque bien une des faiblesses du régime démocratique. Il suppose trop de vertus et de désintéressement. Il n'est pas fait à la taille des hommes de notre époque. Républicain de toujours, je reste fidèle aux principes de la République comme je l'avais comprise dès mon plus jeune âge, la liberté sous toutes ses formes, mais le respect également imposé à tous de la loi. Nul ne doit y échapper. Jamais de loi faite contre quelqu'un. Aussi ai-je toujours souffert de l'injustice grande ou petite dont j'ai été témoin, de tous les passe-droits que j'ai connus, et j'en suis arrivé peu à peu à avoir horreur des politiciens bas et fourbes qui, dans un but de réélection, sapaient le droit et méconnaissaient la justice. Ceux-là ont affaibli notre pays et en mettant la protection politique à la base de tout avancement, ont désorganisé la France. Des textes plus intimes. Mardi, c'est une réflexion dans le journal de guerre. Mardi 25 septembre 1918. Donc il va à Jima, d'où était Jima, c'est juste à côté de la Razée, hein, c'est pas loin de la Razée, d'où était origine son père. Je vais à Jima à bicyclette, voir des parents que je ne rencontre pas. Je reviens par la motte Cumont. J'éprouve un plaisir particulier à revoir ces lieux où mon père naquit, où vécurent mes ancêtres. Voici le château de Rubles, dans la vassalité de qui furent tenues ces générations de terriens dont je descends. Voici l'humble église de Jima, où mon pauvre père fut baptisé et dans laquelle il fit sa première communion. Voici l'humble cimetière où dorment mes aïeux. Je foule ces lieux avec respect. Puis, je gravis la pente qui monte vers la motte Cumont. Mon père m'a souvent raconté bien des souvenirs de ces lieux familiers. Son esprit m'a accompagné tout le temps de cette mélancolique promenade. L'âme des morts existe réellement. Notre esprit proteste contre la disparition totale des êtres aimés que la mort a frappés. Je prends le plus endurci des matérialistes, et je le défie bien, s'il a du cœur et de l'imagination, s'il a le culte du souvenir, de repasser dans les lieux où vécurent les siens sans supposer que leur esprit les hante. S'il n'éprouve pas cette impression, s'il croit que tout disparaît avec nous, c'est qu'il n'a jamais aimé. Et alors, le matérialiste doit être défini, l'homme qui ne sent pas, parce qu'il n'est attaché qu'à soi. Il est l'être qui se rapproche le plus de l'animal. un dernier texte bon, qui montre un peu la fin de vie de mon grand-père et son humeur à la fin de sa vie. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Bon, Saint-Antonin, le 23 mars 1938, lettre à ma mère, il a 72 ans. Au moment où te parviendra cette lettre, nous aurons, ma chère Ginette, planté une borne nouvelle sur la voie que nous parcourons de commerce, mamé et moi. 50 ans de mariage. C'est ce qu'on est convenu d'appeler les noces d'or. Longue étape, ordinairement marquée de quelques circonstances heureuses, occasion habituelle dans le cercle de la famille, de fêtes et de réjouissances, qui projette un dernier rayon de soleil sur le crépuscule d'une journée qui s'obscurcit. Ce ne serait être notre lot à nous, condamnés à vivre toujours en marge des pratiques ordinaires, seuls, dans un morne tête-à-tête et dans un recueillement tout intime, nous pourrons en ce jour anniversaire mesurer la distance parcourue. Début pénible, vie rude, faite quelquefois de privations sévères, au milieu d'un très dur labeur, mais dont, malgré tout, n'est exclue ni la joie, ni les espoirs, ni la confiance. Et puis, une dernière période d'un quart de siècle, où nous n'avons connu qu'angoisse, tristesse, déception, mécompte, douleur et surtout chagrin, immense et indéfinissable, générateur de souffrances, tant morales que physiques, auxquelles seul un travail intense a pu apporter quelques soulagements. Sombre tableau que je voudrais m'excuser de présenter ici, mais qu'il faut bien vous tracer, puisque vous ignorez tout de nous et qui ne contient aucune exagération, car nul ne saura jamais quelle douleur furent les nôtres. Après cela, si Dieu le veut, nous allons reprendre le bâton du voyageur et nous marcherons, comme nous le pourrons, de plus en plus péniblement, sans aide ni secours, sur le chemin rocailleux dont les ornières vont être, pour nos pas chancelants, de plus en plus difficiles à franchir. Nos vœux ardents en cet anniversaire, mes chers et bien-aimés enfants, et que la vie vous évite les heures dont la nôtre a été secouée, que vous ignoriez toujours les pénibles traverses que nous avons connues. Merci pour votre attention.